Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour les amis, c'est Anne Guéquière. Saviez-vous que seulement 29% des effectifs du numérique en France étaient des femmes ? Ada Tech School, que j'ai le plaisir d'accueillir comme sponsor de cet épisode, s'est engagée à changer cette réalité. Inspirée par Ada Lovelace, qui est la pionnière de la programmation informatique, cette école féministe et inclusive offre une formation unique de 21 mois, dont 12 en alternance pour devenir développeur ou développeuse, sans prérequis techniques ni académiques. Alors si vous souhaitez vous reconvertir dans un secteur vraiment porteur, où votre contribution peut façonner l'avenir, Ada Tech School vous attend. L'école est à Paris, mais aussi à Lyon et à Nantes, et il y a 3 rentrées par an. Et la prochaine rentrée, les amis, est le 27 mai 2024. Il reste encore quelques places, alors pour candidater, rendez-vous vite dès maintenant sur le site adatechschool.fr. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences.
Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.
Règles douloureuses, syndrome prémenstruel, endométriose ou encore acné et troubles de l'humeur, la vie des femmes est rythmée par des phases hormonales durant lesquelles elles doivent souvent gérer des douleurs physiques et des up and down émotionnels. Et si ce n'était pas une fatalité, s'il était possible, en comprenant comment agissent nos hormones, de mieux vivre nos cycles et de se libérer de cette injonction à la douleur. C'est ce qu'a décidé de faire mon invité d'aujourd'hui après de nombreuses années à souffrir sans que le corps médical ne lui propose de réelles solutions. Elle s'est tournée vers la naturopathie en changeant son hygiène de vie et surtout en observant comment fonctionne le système hormonal féminin. Elle a réussi à changer la donne. Aujourd'hui, naturopathe, elle a développé une méthode qui permet de reprendre le pouvoir sur nos hormones. Aujourd'hui, nous allons comprendre comment fonctionne notre système hormonal, identifier les habitudes à changer et mettre en place de nouvelles pratiques. Je suis ravie de recevoir, à l'occasion de la sortie de son livre, aux éditions Erol, Reine de mes hormones, la naturopathe Alix Dantras. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Tu racontes dans ton livre, je le disais en introduction, que ton intérêt pour les hormones et le système endocrinien, puisqu'on l'appelle comme ça, vient du fait que toi-même, tu as souffert de troubles hormonaux durant plusieurs années, hein, je crois. Est-ce que tu veux un peu peut-être nous parler de ce qui t'est arrivé à ce moment-là pour qu'on comprenne comment tu en es venue finalement à t'intéresser à ce sujet?
Oui. En fait, je crois que j'ai toujours souffert de déséquilibres hormonaux. C'est juste que je savais pas. On me disait, c'est normal d'avoir des cycles assez longs. Et puis, on grandit aussi avec cette pensée qu'il est normal d'avoir mal au ventre quand on a ses règles, qu'on a des sautes d'humeur avant ou pendant les règles, etc. Et donc, je grandissais avec ça en me disant, c'est comme ça. Et puis, je suis un peu désaccordée, finalement. Mais apparemment, c'est normal. Et puis, je posais la question quand même autour de moi ou quand j'encontrais mon gynécologue. Et puis, voilà, c'était pas si alarmant que ça. Et en fait, ça a vraiment commencé à me poser problème au moment où j'ai grandi et où j'ai un projet bébé qui a commencé à pointer le bout de son nez. Seulement, évidemment, quand on a des cycles à rallonge, voire des règles aux abonnés absents, il est évident que c'est un petit peu plus compliqué comparé à une femme qui ovule tous les mois et que nous, a priori, c'est un petit peu plus délicat. Et à ce moment-là, en fait, la réponse était claire, c'était bon, dans ce cas-là, s'il n'y a pas de règles, on va vous stimuler et puis vous partez directement en FIV. Moi, j'ai eu envie un peu de reprendre le contrôle et d'essayer de voir ce que je pouvais mettre en place de mon côté pour réharmoniser ce corps, tu vois, réaccorder ce corps. J'en suis venue à la naturopathie un petit peu comme ça, en me disant il y a plein de choses possibles apparemment, je vais les tester sur moi, parce que je connais aucune personne plus motivée qu'une femme qui a envie de faire un bébé. Je me suis jetée sur toutes les méthodes, toutes les petits trucs, les choses comme ça, pour me dire je vais essayer de rétablir ça. Alors j'ai fait, il y a eu des bonnes idées, puis il y a eu des moins bonnes idées, et c'est ce pourquoi il était si important pour moi d'en parler dans ce livre.
Effectivement, est-ce que tu te considères comme guérie aujourd'hui?
Oui.
De tes problématiques, ou est-ce que tu es toujours obligée de faire attention? Alors, tu as eu un bébé entre-temps.
J'ai eu
deux
bébés même.
Ça a plutôt bien marché. Donc, c'est vrai que ça donne aussi des perspectives.
Ah oui, ouais. Énormément moi, ça m'a vraiment permis de reprendre confiance en moi, tu vois, parce que je suis passée d'un corps que je maîtrisais pas du tout et sur lequel je m'acharnais à tester des choses qui marchaient pas finalement, un rapport beaucoup plus serein et peut-être aussi beaucoup plus doux avec mon corps. Et tu vois, ça a marché puisque je suis là deux bébés plus tard à discuter avec toi.
Oui, exactement. Est-ce que tu avais vent dans ta famille déjà de problèmes dans tes antécédents, et tu penses que ça peut jouer dans ton cas, ça a pu jouer?
Non, j'ai pas. C'est vrai que j'en ai parlé, j'ai survolé la chose, mais en fait, moi, je suis atteinte d'un syndrome des ovaires polykystiques qui n'est pas complètement guéri, mais qui est en tout cas sous couvert, qui est un petit peu sous contrôle, qui me pose pas trop de problèmes. Et qui me permet d'avoir des cycles réguliers, ce qui est loin d'être gagné quand on a un syndrome des ovaires polykystiques. Dans ma famille, j'étais la seule à souffrir de ça. C'était encore plus déroutant, si tu veux, parce que j'étais, je comprenais pas pourquoi la grande loterie de la vie, c'était moi, et puis ma mère avait pas ça, mes cousines n'avaient pas ça, j'étais un peu toute seule dans ce cas. Et je pense, comme beaucoup de personnes, quand on parle d'hormones ou d'équilibre hormonal, j'étais un peu déroutée aussi par rapport à la marche à suivre. De me dire, moi, si demain je me casse la jambe, je sais à peu près, la marche à suivre. Et en revanche, pour les hormones, quelque chose qui est si invisible et si intangible, je commence par où, en fait? Et du coup, c'était ce qui était peut-être le plus difficile à vivre pour moi, c'est que, on nous dit, vous êtes comme ça, ou va falloir essayer de bosser sur ces hormones, vaste sujet. Et du coup, c'est ce que j'ai essayé de démystifier et de rendre un petit peu plus clair à travers la formation que j'ai faite et mes recherches.
Ce syndrome dont tu parles, les ovaires polykystiques, on dit comment l'abréger? C'est SOPK, c'est ça?
Ouais, SOPK, exactement.
SOPK, on dit SOPK, on le prononce comme ça. Ça se manifeste comment? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées aujourd'hui, qui sont atteintes de ce syndrome?
Je pense qu'il y a beaucoup plus qu'on ne croit, parce que c'est vrai que moi, par exemple, on m'a pas parlé des SOPK avant que j'ai presque 30 ans, tu vois. Et pourtant, j'avais des cycles très, très irréguliers. Donc concrètement, un SOPK, c'est un syndrome des ovaires polykystiques. C'est un syndrome qui est très mal nommé déjà, parce que il s'appelle ovaire polykystique, et donc on a tendance à se dire « oulala, mais ça doit faire hyper mal, t'as plein de kystes ». Et en fait, c'est pas tellement ça. C'est qu'en fait, on a des ovaires qui ont du mal à ovuler chaque mois, ce qui retarde du coup l'arrivée des règles, et ce qui fait qu'on a des cycles assez longs. Et en fait, ils ont un aspect polykystique quand on fait une échographie. Ils ont plein de petites boules, un peu comme des grosses framboises, si on devait leur approcher d'une image comme ça. Et du coup, ils ont un aspect polykystique, mais en fait, on devrait parler d'ovaires plurifolliculaires, tu vois, parce qu'il y a plein de follicules, finalement, qui se développent de manière un peu incomplète ou un peu bâclée. Et du coup, c'est ce qui provoque cette ovulation qui met tant de temps à venir, cette difficulté d'ovulation, et donc des cycles très longs. Donc ça, c'est un peu le principal symptôme. En général, quand on dit ça, on se dit « Ah, voilà, est-ce que c'est peut-être un syndrome des ovaires polykystiques ?» Mais comme beaucoup de syndromes, c'est finalement quelque chose qui peut prendre plusieurs apparences. Et qui a voilà, c'est un regroupement de symptômes, en fait, et qui va, du coup, avoir des effets différents en fonction des personnes. Donc moi, mon syndrome des ovaires polykystiques, il est comme ça. Il est donc principalement caractérisé par des cycles longs ou très longs, même si ça va beaucoup mieux de ce côté-là. Il y avait aussi un petit souci au niveau des hormones masculines. Les hormones masculines, il est normal d'en avoir quand on est une femme, mais elles sont évidemment en bien moins grande quantité que chez un homme. Et quand elles sont là de manière un peu trop importante, eh ben, en fait, on arrive à des soucis, par exemple pour ovuler. Donc là, pour le coup, ça peut être gênant. Et puis, ça peut être d'autres soucis. Des soucis, par exemple, d'hirsutisme, le fait d'avoir des poils à des endroits où une femme n'est pas censée avoir de poils. Ça peut être aussi des transpirations excessives. Ça peut être des soucis de peau, ça peut être de la perte de cheveux, ça peut être plein de choses. Donc, c'est un syndrome qui peut être comme ça chez une personne et puis assez différent chez une autre, où là, on va retrouver une personne qui va être en surpoids, qui va faire peut-être de la résistance à l'insuline. Donc, l'insuline, pour décrire ça vite fait, c'est l'hormone qui est chargée de faire baisser le taux de sucre dans le sang. Et donc, quand on y est résistant, c'est qu'on y est moins sensible et qu'on a besoin de plus d'insuline pour faire le boulot. Et donc, qu'on a potentiellement des niveaux de sucre un petit peu plus élevés que la norme, voire beaucoup plus élevés. Et donc, ça peut entraîner du surpoids, mais ça peut aussi entraîner des maladies cardiovasculaires, hein, puisque comme on le sait, taux de sucre élevé, diabète, etc., tout ça, c'est pas génial pour le système cardiovasculaire. Et donc, c'est vrai que le raccourci qu'on entend souvent de finalement le syndrome des ovaires polykystiques, c'est juste une histoire de règles, c'est complètement faux, parce que ça peut être beaucoup plus grave que ça. Donc là, je parle bien sûr du côté cardiovasculaire. Et puis, il y a aussi tous ces symptômes qui sont pas très rigolos à avoir quand on est une femme, qui vont donc qui découlent de l'excès d'hormones masculines, comme l'hirsutisme ou la perte de cheveux, ou même aussi quelque chose dont on parle moins, c'est aussi les sauts d'humeur, la fatigue chronique, etc., qui peuvent mener à une détresse psychologique assez importante.
Alors, comment tu as pu être diagnostiquée et comment une personne qui nous écoute pourrait se faire diagnostiquer si elle soupçonne peut-être ça? Est-ce que ce sont des analyses de sang? Qui est-ce qu'il faut voir dans ces cas-là?
Alors, un gynécologue, c'est toujours la personne qui va vous permettre de poser un diagnostic, même si, bien sûr, chez vous, il y a des choses qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Mais en général, les gynécologues, ils vont souvent faire une échographie en première intention et puis après, ils vont vous conseiller de faire une prise de sang. Et là, ils vont regarder pas mal de choses. Donc déjà, l'aspect des follicules. Ils vont aussi, regarder si vous avez des cycles longs, oui ou non, les symptômes annexes, s'il y a un excès éventuel de testostérone ou si, finalement, dans les analyses sanguines, ça ne ressort pas, mais au final, vous avez des symptômes qui sont liés à ça. Peut-être que c'est d'autres, il s'agit d'autres hormones masculines qui sont en excès. Et donc, dans ce cas-là, il peut y avoir quand même des symptômes avec une testostérone qui est, par exemple, dans les clous. Ça, c'est possible aussi. Donc, ça peut être de l'hyperandrogénie qui est constatée dans une prise de sang ou qui est constatée par les symptômes, en fait. Donc ça, c'est un peu les premières choses.
Alors c'est vrai qu'on a parlé de ce syndrome, mais le podcast n'est pas dédié à ce syndrome. On va parler du système hormonal en général, et en particulier de celui des femmes, puisque ton livre est dédié en fait au système endocrinien féminin. Alors c'est quoi le système endocrinien? C'est vrai qu'on connaît ce métier aussi d'endocrinologue. Finalement, c'est assez méconnu. Comment est-ce que nos hormones fonctionnent et en quoi, nous, les femmes, on est peut-être plus impactées, de manière peut-être plus visible, par des problèmes hormonaux? Alors, il y a deux questions en une. Alors déjà, peut-être la première, excuse-moi.
une hormone, si on décrit ça rapidement, sa mission, c'est d'être un messager. Donc, elle va être envoyée à travers le sang, par exemple, pour aller inhiber ou stimuler le fonctionnement d'un organe. Et donc, bah, comment elle va procéder? Elle va venir un peu à la manière d'une prise, de courant. Elle va venir se pluguer comme ça sur une prise, un récepteur en fait qui lui est dédié. Et c'est comme ça qu'elle va fonctionner. Et donc, bah, en fait, on a tendance souvent à relier ça, bien sûr, aux femmes et au cycle menstruel, mais il se trouve que, bah, au final, c'est lié à plein d'autres systèmes, au système digestif, au système nerveux, au système cardiovasculaire, à la circulation, etc. Donc, en fait, l'équilibre hormonal, qu'on soit homme ou femme, c'est déjà quelque chose qui nous gouverne et qui vient, bah, bien sûr, agir comme un chef d'orchestre sur l'ensemble du fonctionnement de notre corps. Mais peut-être qu'on le ressent, comme tu dis, de manière assez, en tout cas plus importante quand on est une femme, parce qu'on n'est pas calé sur le même cycle que les hommes. Donc, bien sûr, il y a cette histoire de cycle circadien sur lequel on est tous branchés. Mais nous, on a en plus cette notion de cycle menstruel qui, à peu près tous les mois, entraîne une fluctuation hormonale, des fluctuations hormonales qui peuvent, du coup, avoir différents impacts sur notre corps et sur aussi notre mental et nos émotions pendant ce cycle menstruel. Donc, on a l'influence, par exemple, des œstrogènes qui vont nous aider à nous sentir boostés s'ils sont sécrétés au bon moment et en quantité suffisante. Et puis, normalement, c'est contrebalancé avec la progestérone qui est censée être une hormone qui nous calme, qui nous apaise en fin de cycle. Et malheureusement, parfois, c'est ce tempo qui est un petit peu mal calibré. Et du coup, là, on peut avoir des cycles un petit peu plus chaotiques et des symptômes associés.
Alors du coup, quelles seraient justement un peu les pathologies associées ou les maux MAUX qui peuvent découler d'une perturbation du système hormonal, que celles et ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent, puissent se dire peut-être « Ah, bah tiens, ça peut mettre la puce à l'oreille sur quelque chose ». Et puis, après des grandes pathologies, là tu as parlé du syndrome ovarien polykystique qui en fait partie, mais il n'y a pas que celui-là évidemment.
Bien sûr, ouais. Ce qu'on va le plus remarquer quand on est une femme, ça va être tout d'abord ceux qui ont trait au cycle menstruel. Donc, en gros, un cycle menstruel qui est censé se comporter de manière normale, on va dire, même si la norme est un vaste sujet, ce sont des règles qui sont censées, oui, peut-être un petit peu tirailler, voilà, vous devez le sentir un petit peu, mais ça ne doit pas vous faire mal au point de vous rouler par terre, de vous empêcher d'aller travailler, etc. C'est des règles qui sont censées être juste ce qu'il faut en termes de flux, donc pas trop abondante et pas non plus complètement anecdotique au point de ne pas mettre de protection. Des règles qui sont censées arriver assez régulièrement, donc qui font suite à une ovulation en général, il y a un petit laps d'une quinzaine de jours en général. Donc voilà, il y a plein d'éléments autour des cycles qui peuvent nous alarmer, nous alerter en tout cas. Si a priori il y a un cycle qui est plutôt régulier, qui se passe sans encombre, c'est toujours bon signe. Mais des règles abondantes, des choses comme ça, oui, on doit toujours en parler à son gynéco et éventuellement aux autres thérapeutes qui vous suivent, parce que ça peut cacher quelque chose, soit au niveau hormonal, soit être un fibrome, soit des choses comme ça. Donc il faut toujours, toujours en parler et jamais considérer que tout est normal. Donc ça, c'est plus ce qui a trait aux règles. On peut parler aussi, bien sûr, d'autres soucis. Il y a les problèmes de thyroïde, par exemple, où on va avoir... Moi, j'aime bien cette image de dire que quand on a un problème de thyroïde, c'est un peu comme si on regardait un film en accéléré ou au ralenti. C'est-à-dire que si elle fonctionne un peu en sous-régime, on va être fatigué, on va avoir un transit un petit peu plus lent, on va avoir des difficultés à perdre du poids, des choses comme ça. Ou alors, si à l'inverse, elle fonctionne en sur-régime, on va avoir du mal à dormir, on va perdre du poids très facilement, avoir un transit un peu accéléré, etc. Donc ça, pareil, c'est des choses qui doivent aussi nous alerter sur le fait que, tiens, il y a quelque chose qui est peut-être pas normal ou en tout cas qui n'est pas habituel chez moi. Les troubles de l'humeur, quand ils sont trop importants aussi. C'est vrai que je parlais des règles tout à l'heure, mais il y a aussi tout ce qui se passe avant les règles qui peut poser problème. Il y a des personnes chez qui la période prémenstruelle est synonyme d'une grande détresse psychologique, où tout d'un coup, on ne comprend pas ce qui se passe, mais on a l'impression qu'on est la dernière des dernières et que rien ne va pouvoir nous sortir de là. Moi, ça a été mon cas pendant un moment. Et du coup, c'est vrai que c'est assez pénible en fait d'avoir ces moments-là où on a des grosses chutes de morale et ça peut aller très loin, surtout si on n'est pas écouté comme il faut. Donc je pourrais continuer encore longtemps. Il y a plein de choses qui sont possibles aussi. Il y a le surpoids, il y a la résistance à l'insuline. Il y a vraiment énormément de choses en fait qui sont liées aux hormones. Je pense que j'ai cité les principales, même si je pourrais continuer longtemps.
On retrouve aussi des pathologies comme l'endométriose.
Oui.
Est-ce que les hormones sont impliquées dans cette problématique ?
Oui, ce que je dis souvent, c'est que l'excès d'œstrogène qu'on relie souvent à l'endométriose, c'est pas la cause, contrairement à ce qu'on peut lire parfois. Pour moi, c'est un des moteurs, et donc il faut essayer de comprendre d'où vient ce déséquilibre entre œstrogène et progestérone. Souvent, on dit qu'il y a beaucoup trop d'œstrogène par rapport à la progestérone. Bon, déjà, les œstrogènes, ils ont ils doivent être là, d'accord ? Il n'y a pas d'hormones à éliminer ou d'hormones à conserver. Et puis, il faut essayer de comprendre. Quand on est naturopathe, on a cette posture d'essayer de comprendre tout le temps pourquoi. S'il y a un excès éventuel d'œstrogène à un moment, on va essayer de comprendre d'où ça vient. Est-ce que c'est parce qu'il y a une production excessive d'œstrogènes ou est-ce que c'est parce qu'il y a une élimination qui est insuffisante, puisque, comme tu le sais peut-être, mais nos hormones n'ont pas vocation à rester toute notre vie avec nous. Une fois qu'elles ont servi, elles doivent être éliminées par le corps et donc par le système digestif qui normalement fait ça très bien. Donc le foie qui va un peu désactiver tout ça et puis le transit. Quand il y a une endométriose ou quand il y a un symptôme qu'on va relier à un excès d'œstrogène, on va essayer du coup de comprendre ce qui se passe. Est-ce que c'est au niveau de la production hormonale ? Est-ce que il y a beaucoup d'éléments qui augmentent la sécrétion de ces hormones ? Ou est-ce que peut-être il y a une élimination qui est insuffisante et au final, je fonctionne un petit peu en circuit fermé, c'est-à-dire qu'au lieu d'éliminer ces hormones une fois qu'elles ont servi, finalement, dans mon système digestif, il y a quelque chose qui va les réactiver et faire en sorte que, j'ai toujours autant d'œstrogènes, voire un peu plus. Ça a trait évidemment par exemple au transit et ça peut avoir trait aussi à la manière dont le foie fonctionne, puisque quand il va s'attacher à recycler un peu ces hormones que sont les œstrogènes par exemple, il va avoir, ça va se faire en plusieurs étapes et puis ça va ces œstrogènes vont se transformer en sous-produits, en sous-produits recyclés si tu veux, avec des sous-produits qui vont être complètement inoffensifs et qui vont permettre de passer des règles, par exemple, en toute sérénité, et des sous-produits qui vont être beaucoup plus agressifs et qui, du coup, vont provoquer des symptômes assez importants. Des douleurs, des règles abondantes, des grosses chutes d'humeur, des choses comme ça, par exemple.
Et on va évidemment ensuite parler de toutes les solutions aussi en naturo. Avant d'en arriver là... On n'a pas parlé de la ménopause et de la préménopause. Est-ce que, en fonction de comment on a vécu nos périodes de règles, c'est-à-dire avec ou pas des problématiques hormonales, ça va un peu déterminer la façon dont on vivra la ménopause ou préménopause, ou pas du tout ? On peut avoir eu des cycles finalement corrects et puis d'un seul coup avoir une ménopause qui flambe. Je dis ça comme ça, hein, je ne sais pas si le terme est exact, mais en tout cas, ce qui se passe pas très bien au niveau hormonal. On va dire, je caricature un peu, hein, mais comme ça.
Ouais, c'est une très bonne question. Et en fait, pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, moi, parfois, que je rencontre qui me disent « Mais moi, j'ai toujours eu des règles qui se passaient très bien, ça ne changeait rien à mon quotidien. » Et tout d'un coup, je me retrouve à avoir des sautes d'humeur, des règles hyper abondantes, des douleurs alors que j'en ai jamais eu. Parce qu'en fait, et notamment au moment de la préménopause, qui est souvent peut-être moins bien vécue que la ménopause, bien que ça dépende des cas, mais parce qu'en fait, ça va être une période plus ou moins longue, hein, ça peut être 7 ans, ça peut être 10 ans, où il va y avoir des espèces de montagnes russes hormonales. Et donc, on va passer de périodes où on va avoir des hormones en excès, comme par exemple les œstrogènes, et donc les symptômes associés. Et on va arriver à d'autres périodes où, du coup, ce sera l'inverse, ce sera les montagnes russes. Et là, cette fois-ci, on aura des symptômes liés à un manque ou à des œstrogènes très, très bas. Et donc, c'est assez déroutant, puisque forcément... Oui, si on a des règles hyper abondantes, que ça devient un petit peu difficile à gérer et une semaine après, on fait des insomnies parce que justement, on est dans cette période de chute hormonale, on fait des insomnies, on se sent pas bien, on a la peau qui tire, on a la libido raplapla, etc. Forcément, si on enchaîne tout ça, au bout d'un moment, ça va être un peu chaotique et surtout très difficile à vivre. Donc, c'est souvent, oui, des périodes qui sont assez difficiles à vivre. Si il y a des symptômes qui apparaissent comme ça, alors que c'était pas le cas avant. Je pense que c'est aussi le corps qui s'adresse à vous et qui vous réclame du coup de changer d'hygiène de vie parce que visiblement il y a quelque chose qui lui convient pas. Et donc ça peut être un bon moment aussi pour reprendre soin de soi et faire un peu le point sur les habitudes qui font du bien et celles qui font un petit peu moins de bien.
Alors justement, on pourrait s'intéresser d'abord peut-être à ce qui, aux facteurs en fait de dysfonctionnement endocrinien. Qu'est-ce qui est délétère en fait pour notre système d'une manière générale peut-être?
Ouais. Je dirais qu'il y a plusieurs postes de choses à surveiller. Ce dont on parle le plus et ce sur quoi on me pose le plus de questions, c'est souvent l'alimentation. On a une alimentation qui n'est pas toujours géniale, qui est, moi, de ce que je constate, peut-être de mieux en mieux, mais dans laquelle on a pris par-ci, par-là des conseils, et au final, ça fait un truc parfois qui est un petit peu déséquilibré. On a une alimentation, donc déjà, qui est très polluée, très transformée, donc d'où l'importance de consommer bio et de consommer des aliments le plus bruts possible, donc si possible pas les choses toutes prêtes qu'on achète au supermarché. Ensuite, du coup, on n'a pas toujours des menus très équilibrés, on va avoir peut-être pas suffisamment de légumes, peut-être parfois des féculents qui vont faire un peu trop flamber la glycémie justement, ou peut-être pas de protéines en quantité suffisante parce qu'on a lu quelque part que il fallait consommer moins de viande rouge, ce avec quoi je suis d'accord, mais du coup on a mis toutes les protéines dans le même panier et on se retrouve avec parfois 2 protéines par semaine et encore. Donc là, au niveau de l'alimentation, je dirais que la base, c'est de commencer par des choses qui vont être plus nourrissantes, tout simplement, parce qu'évidemment, dans les aliments transformés, on ne va pas trouver autant de nutriments que dans un aliment qui va être préparé avec amour. Et puis, il y a plein d'autres choses. Malheureusement, il y a les polluants pour lesquels on ne peut pas faire toujours grand-chose. Je pense que malheureusement, on ne peut pas se protéger à 100% de tous les polluants, mais on peut faire des petits aménagements chez soi pour en tout cas mieux les vivre. Et c'est pour ça que j'y consacre un chapitre entier dans le livre, parce que c'est vrai qu'on est tous sensibilisés au moins à l'importance de manger bio, mais en fait c'est vrai qu'on se rend compte que les polluants ils sont pas que là, ils sont pas que dans les aliments, c'est dans le plastique qui nous entoure un petit peu partout, ça va
les
être...
Les fameux perturbateurs endocriniens d'ailleurs.
Exactement, dans tous les perturbateurs endocriniens, donc on retrouve bien sûr dans les plastiques en grande quantité, mais aussi dans des produits dont on se méfie un petit peu moins parfois, les produits de beauté, etc., notamment. Donc, faire attention à son alimentation, mais aussi, pour moi, c'était impossible de pouvoir parler de tout ça sans évoquer cette massive pollution à laquelle on est confronté et de proposer des astuces pour un petit peu réduire cette exposition. Et puis, il y a aussi plein de choses, malheureusement, qui rentrent en cause. Il y a aussi le stress. Enfin, le déséquilibre hormonal, c'est vraiment un monstre à plusieurs têtes. Et du coup, une fois qu'on a coupé une tête avec l'alimentation et que ça va un petit peu mieux de ce côté-là, on va essayer de faire le tri au niveau de tout ce qui peut perturber nos hormones, au niveau des polluants et perturbateurs endocriniens. Ça peut être aussi de mieux vivre des périodes de stress ou en tout cas de trouver des petites fenêtres pour essayer de décompresser régulièrement. Ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi mieux digérer parce qu'en fait, on est de la même manière, on a grandi avec des phrases comme « c'est normal de souffrir quand on est une femme et quand on a ses règles ». On a aussi grandi avec... une espèce de certitude ou de normalité où c'est normal aussi de mal digérer. C'est normal d'avoir mal au ventre, c'est normal d'avoir le ventre qui gonfle, etc. Donc ouais, c'est aussi des choses qui vont bien sûr influer sur l'équilibre hormonal.
Dans les grands perturbateurs endocriniens, tu inciterais à être vigilante sur quel perturbateur, justement ?
Sur, donc déjà...
Quand on soupçonne vraiment des problèmes hormonaux.
Ouais, déjà limiter tout le plastique qui est autour de soi. Donc parfois, on ne peut pas faire autrement, bien sûr, quand on voyage. Mais en tout cas, tout ce qu'on peut contrôler à la maison... ça veut dire commencer peut-être par pas consommer de l'eau en bouteille, essayer d'acheter un petit filtre pour que l'eau du robinet soit la plus clean possible. Par exemple, essayer de regarder un petit peu mieux quand on choisit ses produits de beauté, tout ce qui va sur le corps, les ongles, parce que tout ça va pénétrer dans le sang, en fait. Donc, hyper important de faire attention à ça. Et on ne le fait pas toujours, ou parfois on a un peu la flemme de le faire, mais pour moi, c'est capital. Et puis, ça peut passer aussi par des petits gestes du quotidien, retirer ses chaussures quand on arrive chez soi, parce que on trimballe quand même pas mal de choses. Faire attention au choix des tissus qu'on prend pour les vêtements. Parce que là aussi, en fait, on se retrouve avec des dérivés de plastique sur la peau et qui vont, au bout d'un moment, évidemment, pénétrer dans notre organisme. Donc, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être aussi de refuser l'étiquette caisse quand c'est possible, parce que là aussi, on va trouver des ingrédients pas super, comme du bisphénol. Donc, voilà. Tout ce qui est possible et assez facile, ça peut être un bon point pour commencer.
D'ailleurs, je pense, pour les plus jeunes femmes qui nous écouteraient, par exemple, c'est vrai que quand on est jeune femme, qu'on peut avoir des problèmes de cycle divers et variés, on peut être étudiant, étudiante, on n'a pas forcément la conscience ou le temps ou l'argent de s'occuper de tout ça. Et c'est vrai que la solution, bien souvent, c'est de prendre un contraceptif pour régler tous ces problèmes. On voit ça quand même de manière assez régulière, ce qui peut être bien et dans certains cas tout à fait être une aide intéressante, mais qui n'est pas toujours une solution magique. Alors, je ne sais pas quelle serait ta vision des choses à ce sujet.
Oui, je pense que tu as complètement raison. C'est très courant et assez habituel. Et moi, ça a été le cas. On m'a dit, vous avez des règles irrégulières, on va vous donner la pilule, comme ça, ça va devenir régulier. Sauf qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça. La pilule ne crée pas de règles régulières. C'est juste qu'elle provoque un saignement à l'arrêt de la pilule, qui a un espèce de saignement de privation hormonale. Et donc, de la même manière où à la fin d'un cycle menstruel classique, on a une chute hormonale, là, on vous donne des hormones, et quand vous arrêtez de les prendre, forcément, ça crée une chute hormonale. Mais pour qu'on puisse parler de règles, il faudrait encore qu'il y ait toutes les fluctuations hormonales et toute la cascade d'événements qui mènent aux règles, par exemple, en passant notamment par l'ovulation, ce qui n'est pas le cas quand on prend la pilule contraceptive. Et donc, certes, on a des saignements, donc ça peut être rassurant, mais ça ne va pas réguler le cycle. Au contraire, on voit souvent des personnes qui, en arrêtant la pilule, mettent parfois un an à retrouver leur cycle menstruel. Donc, c'est bien que ça n'a rien réparé derrière. Après, bien sûr que prendre la pilule, ça peut être entendable quand on a des douleurs absolument insupportables chaque mois. Évidemment, c'est complètement entendable de vouloir que cette douleur se taise. Seulement, là encore une fois, ça va rien réparer entre guillemets. Et ces douleurs, vous les reportez juste simplement à l'arrêt, à la prochaine fois où vous allez arrêter la pilule. Et le seul souci, c'est que du coup, vous risquez d'arriver à un moment, quand vous allez arrêter la pilule, où vous allez être un petit peu plus dénutri, puisqu'on sait maintenant que la pilule provoque une perte de certaines vitamines et certains minéraux, donc notamment les vitamines du groupe B, qui sont très, très utiles dans l'équilibre hormonal. Et donc, on va arrêter la pilule et on va avoir une espèce de carence, finalement, qui est peut-être pas systématique, mais qui en tout cas est fréquente, en termes de vitamines, en termes de minéraux. Et c'est dommage parce qu'on avait justement besoin de tous ces bons nutriments pour avoir des cycles peut-être plus harmonieux. Donc parfois, voilà, c'est bien aussi, on a besoin de faire une pause parce qu'on a des symptômes qui sont difficiles à vivre, mais ça ne résout rien. Donc je peux l'entendre complètement, mais c'est vrai que, bah, tu vois, par exemple, moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent justement parce qu'elles ont arrêté la pilule et qu'elles ont des symptômes. Ce qui n'est pas évidemment, enfin ce qui n'est pas forcé, mais c'est vrai que ça peut arriver et on n'est pas du tout préparé à ça. Moi, quand j'ai arrêté la pilule, bon, j'ai mis du temps à retrouver mes règles, mais bon, ça c'était pas tellement la pilule. Mais j'ai eu des problèmes de peau, j'ai perdu un petit peu mes cheveux, voilà. Donc ça n'a rien arrangé. Et puis parfois, ça peut être hyper perturbant parce que bah, les bilans hormonaux sont plus ou moins normaux. Et puis, bah, on a tous ces symptômes et donc on ne sait plus vers qui se tourner. On nous dit, bah non, tout va bien. Et puis, bah, on perd nos cheveux par poignée. Donc c'est quelque chose d'assez courant, je trouve, en ce moment. Et on n'est pas préparé. C'est-à-dire que quand on nous donne la pilule, bien sûr, on pourrait regarder tous les risques, tous les effets secondaires, mais moi, j'ai jamais eu un gynécologue qui m'a dit bah, tenez, vous allez prendre la pilule, attention que vous allez arrêter, vous risquez d'avoir tel ou tel symptôme. Donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus, parce que, bah, voilà, quitte à prendre un médicament, pourquoi pas, mais il faut le prendre, pour moi, en connaissance de cause.
On a fait d'ailleurs récemment, c'est dans Graines de Métamorphose, un épisode complet avec une autre naturopathe sur la contraception. C'est vrai que c'est intéressant, en tout cas, de se renseigner le plus possible, même si on sait qu'on peut avoir des risques plus tard, mais au moins d'être effectivement informé. Toi, tu dis d'ailleurs que le stérilet en cuivre, qui a la réputation plutôt d'être une solution naturelle, assez efficace, mais qui pourrait peut-être être toxique éventuellement. Alors, je ne sais pas quelle est ta vision sur le stérilet.
Oui, en fait, on en parle très peu en France et on le voit beaucoup plus dans la culture anglo-saxonne où il va y avoir des articles sur ce qu'on appelle la copper toxicity. Donc, désolé, je parle très mal anglais, mais du coup, bah, voilà, copper toxicity, donc la toxicité au cuivre. C'est donc un moment où on arrive à un excès de cuivre dans le corps qui peut se traduire par un certain nombre de symptômes et notamment des symptômes au niveau mental, donc des troubles de l'humeur. Mais ça peut être aussi plein de choses, une hypersensibilité aux œstrogènes qui nous provoque des douleurs, des choses comme ça. Et encore une fois, c'est hyper difficile à déceler parce que le cuivre va se stocker pas trop dans le sang au final, mais plutôt sur des matières grasses, comme le cerveau par exemple. Et donc, bah, ça va être assez difficile de mettre le doigt dessus. Il y a des tests qui existent aujourd'hui, mais qui sont plutôt issus de la culture anglo-saxonne, encore une fois. Et c'est des choses qui ne sont pas facilement détectables par prise de sang. Donc, ce qui se passe souvent, c'est qu'on a des femmes qui ont des symptômes qui deviennent pas gérables, de temps en temps, bien sûr. Ce n'est pas le cas pour toutes les personnes qui ont le stérilet en cuivre. Mais c'est une réalité pour certaines. Et on leur dit que tout va bien. Le problème, c'est que ces symptômes, eux, ils sont vrais, ils sont réels. Et du coup, bah, on ne sait pas trop ce qui se passe et elles finissent par arrêter le stérilet parce que, bah, oui, en fait, c'était devenu insupportable pour elles et on ne leur donne aucun élément de réponse. Donc oui, il n'y a pas de côté... vous ne prenez pas d'hormones quand vous mettez un stérilet en cuivre, mais ça peut avoir un impact hormonal, en fait. Et ça, pareil, c'est quelque chose qui n'est pas du tout... qui est pas du tout connu. Et donc, on se méfie très peu. Mais c'est vrai que, bon, de plus en plus, quand même, on va déconseiller aux femmes qui ont déjà des règles abondantes ou des règles douloureuses de mettre des stérilets en cuivre, parce qu'on sait que ça peut empirer un petit peu les symptômes. Mais il y a plein d'autres symptômes dont on parle beaucoup moins.
Toi, une femme qui vient te consulter avec justement des problématiques hormonales, tu commences par quoi ? Par lui faire un bilan complet pour savoir où elle en est ? Il y a des règles de base, des choses qui sont indispensables. Tu parlais de l'alimentation tout à l'heure, tu commences par ça. Dans ton idée de monstre un peu tentaculaire, là, à plusieurs têtes, on va dire que c'est polymorphe et c'est un peu dans toutes les directions. C'est ça qui peut faire peur aussi, c'est qu'on se dit... Waouh, la montagne, ça fait un peu mythe de Sisyphe. La montagne est tellement haute à gravir, je ne sais pas par quoi commencer. Ouais. Ça peut sembler un peu comme ça insurmontable.
Bah, et c'est pour ça que moi, je vois vraiment la consultation comme un moyen de simplifier tout ça. C'est-à-dire que, voilà. Par exemple, souvent, bah oui, moi, il y a des femmes qui sont un peu désespérées parce qu'elles ont déjà l'impression d'avoir tout essayé. Et du coup, bah oui, elles ont vu ça sur Internet, elles ont essayé ça, elles ont essayé ci, elles ont essayé ça. Et en même temps, parfois, bah, quand on essaye des choses, et j'en parle un peu dans le livre, mais parfois, quand on essaye des choses, il y a des choses qui ne sont vraiment pas une bonne idée. Autant Internet est super, parce qu'il a permis vraiment de publier, de promouvoir plein d'idées, et de rendre accessible plein d'informations. Mais autant, du coup, toutes ces informations ne sont pas bonnes pour tout le monde. Et le rôle du naturopathe, pour moi, c'est aussi de faire le tri là-dedans, et de dire, vous, particulièrement, avec ce que vous me décrivez et votre histoire, ça, c'est une bonne idée, ça, c'est pas une bonne idée. Donc, t'as raison, on commence souvent par l'alimentation, parce que pour moi, on peut pas faire sans. Mais on va aussi, selon le cas, investir d'autres choses. La complémentation aussi, tu vois, encore une fois, on voit plein de conseils sur Internet fleurir de personnes qui sont plus ou moins formées, d'ailleurs, et qui vont vendre, je sais pas moi, par exemple, du zinc, en disant, ben voilà, c'est ce qu'il vous faut, vous allez tomber enceinte grâce à ça, etc. Et c'est bien sûr faux. Enfin, en tout cas, il n'y a pas un ingrédient miracle qui va vous faire tomber enceinte. Mais du coup, oui, pourquoi pas du zinc, si c'est adapté au cas. Et puis, si c'est une forme de qualité, si c'est un dosage intéressant, etc. Puis, ça dépend aussi de ce qu'on prend à côté. Enfin, voilà. Donc, c'est aussi important d'avoir quelqu'un dont c'est le métier. Qui va nous permettre aussi de savoir un peu quel complément je choisis. Parce qu'au final, si on écoute tous les conseils, on va finir par prendre des tonnes et des tonnes de compléments. Et parfois, ça va être plus délétère qu'autre chose. Donc, il y a toujours ça. Et puis, il y a aussi plein d'autres de choses à voir. Les soucis digestifs dont je parlais tout à l'heure, parce que pour moi, c'est très difficile d'atteindre l'équilibre hormonal si au niveau digestif, c'est la catastrophe. Parce que, du coup, voilà, ça sera un état plus ou moins inflammatoire constant, ce qui va venir un peu brouiller le signal au niveau des hormones. Et puis, ça veut dire aussi que, je parlais de ce circuit fermé tout à l'heure, ça veut dire aussi qu'il y a une élimination qui n'est pas correcte et qui, du coup, peut contribuer à des symptômes gênants. Donc ça, c'est vraiment la base. On commence toujours par là. Et puis après, en fonction, on va rentrer un petit peu plus en profondeur. Mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment l'intérêt de se faire accompagner, c'est de permettre un petit peu de défricher le chemin pour que ça soit le chemin qui n'est pas toujours facile soit quand même le plus clair possible.
Tu parles d'ailleurs dans ton livre de kondoiser le quotidien en faisant référence évidemment à la papesse du rangement, la japonaise Marie Kondo, pour remettre un peu tout ça dans des cases, quoi, de dire ok, on va traiter la maison, la cuisine, les vêtements, tu en as parlé tout à l'heure, les produits de soins, l'hygiène de vie en général, et puis j'imagine en fonction aussi du mode de vie de la personne. C'est vrai que si on est seule étudiante, comme je le mentionnais tout à l'heure, ou qu'on a une famille nombreuse et qu'on a plutôt la quarantaine et qu'on travaille beaucoup, on n'est pas dans le même type de vie, hein.
Exactement, oui. Ça dépend aussi du temps de la personne, ça dépend de ce qu'elle a déjà mis en place. Tu vois, il y a des personnes qui ont déjà qui arrivent et qui ont déjà une alimentation qui est très très bien. Donc voilà, il y a déjà une partie du chemin qui est lancée. Et donc je trouve ça plus simple en tout cas de compartimenter, parce qu'au final, oui, c'est vrai qu'il y a plein de petits domaines qui paraissent parfois anodins et qui sont loin de l'être.
Si on parle à nouveau de l'alimentation, est-ce qu'il y a quand même des aliments, même si on sait qu'il n'y a pas de panacée, tu viens de le rappeler avec les compléments alimentaires, notamment par exemple tu disais le zinc, pour chouchouter son système hormonal, est-ce qu'il y a des aliments que le système hormonal aime particulièrement et qui favorisent quand même un bien-être global ?
Oui, depuis le début de notre conversation, j'arrête pas de parler d'élimination, de choses comme ça. Il y a par exemple des aliments qui vont, notamment tout ce qui va être très amer, qui vont stimuler la sécrétion de bile et qui du coup vont permettre une meilleure élimination. Donc les aliments amers, par exemple, ça peut être le céleri, le fenouil, les radis. Voilà, vous avez un peu l'idée. Tout ce qui va créer un goût un petit peu amer peut être intéressant. Donc, ça peut être aussi juste de manger de la roquette. Ça marche aussi. On parle beaucoup des choux, qu'on appelle parfois les crucifères, parce qu'ils contiennent une certaine molécule qui s'appelle l'indole-3-carbinol, et qui va permettre, du coup, aux œstrogènes d'être beaucoup plus... d'être recyclés de manière beaucoup plus douce. Et du coup, pour ça, c'est aussi important d'avoir un apport suffisant en termes de choux. Donc, ça peut être des brocolis, des choux rouges, du chou kale. Il y a plein de choux qui existent. Donc, faites-vous plaisir. Et puis, peut-être un dernier conseil, c'est se rapprocher aussi, puisque là, on a parlé, par exemple, d'autres systèmes, de chouchouter aussi sa flore intestinale, qui est très importante pour l'équilibre hormonal et qui va, du coup, adorer tout ce qui est fibres violacées, roses et un peu noires. Donc, par exemple, les betteraves, les radis noirs, les choux rouges, etc. Et puis, là, on est en plein automne, à l'heure où on se parle.
En hiver, presque.
Et du coup, pourquoi pas se diriger vers les carottes violettes, les patates douces violettes, tous ces légumes un peu bizarres qu'on voit fleurir pendant cette saison, parce que du coup, ça va être rempli de fibres. Et ça va être des vrais bonbons pour notre flore intestinale.
Ah, dit comme ça, ça donne envie. C'est vrai que tu as parlé des choux, des crucifères tout à l'heure. Est-ce qu'il y a du soufre? C'est cette substance aussi qui est bonne pour le système ou pas spécialement?
Oui. Oui. Et puis, tu vois, on parle d'aliments soufrés. Les protéines, pour le coup, sont pas à exclure, au contraire. Elles doivent reprendre la place qu'elles méritent dans l'alimentation. Bien sûr, il ne faut pas prendre des protéines pour le fait de prendre des protéines, et donc on va choisir sa viande avec soin. Mais si on a un producteur qui fait du bœuf nourri à l'herbe, qui est élevé dans des bonnes conditions, il ne faut pas se gêner. Parce que là, pour le coup, ce n'est pas du tout les vaches nourries avec des farines de mauvaise qualité, dans des très mauvaises conditions en plus. Et ce ne sera pas du tout le même degré d'inflammation à la clé. Et puis, il y a plein d'autres protéines qui sont intéressantes. Et pourquoi est-ce qu'elles sont intéressantes, notamment les protéines animales? Parce que, du coup, on va y trouver des nutriments peut-être en quantité plus importante et plus absorbable, surtout par le corps, plus facilement reconnaissable, en fait, comme le zinc, dont je parlais tout à l'heure, par exemple. Et ça va être utile pour différents... le fer aussi. Ça va être utile pour soutenir notre équilibre hormonal.
Alors tiens, justement, puisque tu parles des carences, tu viens de parler du fer. Est-ce que les carences ont un impact fort sur notre système hormonal? Je pense évidemment au fer que tu viens de citer, chez les femmes en particulier, puisqu'on est toutes plus ou moins carencées.
Exactement, on est toutes plus ou moins carencées et on s'en doute pas forcément. C'est-à-dire que souvent, on va se dire, oui, mais les carences, c'est pour les gens qui ne mangent pas beaucoup. Moi, je mange un peu de tout, et donc il n'y a pas de raison que j'ai des carences. Je suis même un peu en surpoids. La carence, vous pouvez avoir des grosses carences, même si vous mangez énormément. Parce que ce n'est pas tellement une histoire de quantité. Alors, bien sûr, il faut manger en quantité suffisante. Mais ce n'est pas qu'une histoire de quantité, c'est surtout une histoire de qualité. Donc, si on mange que des farines blanches, que des plats un peu transformés dans lesquels il ne reste pas beaucoup de nutriments, on est bien sûr beaucoup plus sujette aux carences que si on mange une nourriture la moins transformée possible. Et puis ensuite, les carences, ça ne se passe pas qu'au niveau de l'assiette, ça se passe au niveau de la digestion. Si on a un système digestif qui ne va pas bien, on aura beaucoup plus de mal à absorber les nutriments, toutes les bonnes choses qu'on a mis dans notre assiette. Donc, on pourra avoir une assiette parfaite, mais au final, on n'arrivera pas à absorber ce qu'il y a dans cette assiette, et c'est super dommage. D'où l'importance de chouchouter son système digestif.
Tiens, d'ailleurs, quand on a justement des fringales qui peuvent être avant les règles ou pendant le cycle ou en préménopause, ménopause, ou pendant la grossesse, est-ce que à nouveau, c'est le système hormonal qui nous suscite ces fringales-là?
Ça peut en effet. Tu vois, le syndrome prémenstruel, il rime souvent avec grosses fringales, et puis en général, pas fringales d'haricots verts, plutôt des fringales de choses bien sucrées. Et du coup, bah ça, oui, c'est complètement lié, c'est complètement cyclique. Il y a beaucoup de femmes à qui ça arrive et qui ont voilà hyper faim et qui font des orgies de sucre à ce moment-là. D'une part à cause de la chute hormonale, à cause aussi de la progestérone qui donne faim, à cause aussi du fait que bah, c'est peut-être une potentielle période de nidation, donc le corps est peut-être un petit peu programmé pour manger un peu plus à ce moment-là. Parce que, même si ce n'est pas le projet, mais lui, s'il y a une ovulation, bah, c'est toujours, il se dit toujours bah, peut-être projet bébé, etc. Mmh. Donc voilà. Et ça, oui, c'est complètement lié à nos hormones, mais ce n'est pas quelque chose qui est une fatalité pour autant. On en parle dans le livre aussi beaucoup du sucre. Il y a des manières de mieux vivre le sucre. Il y a des manières de peut-être... éduquer son corps pour qu'il ait moins besoin de sucre. Donc ça passe par des repas qui vont être un petit peu plus solides, hein, un petit peu plus costauds et qui vont bien nous rassasier. Et ça passe aussi par des repas équilibrés, ça passe aussi par une glycémie qui va être la plus stable possible, où au lieu de faire des montagnes russes toute la journée, et puis bah, quand il y a des chutes de la glycémie, donc du taux de sucre, entraîner bah, forcément des fringales, parce que bah, le corps réclame du carburant, et ben on va essayer de lisser tout ça au maximum pour que bah pour qu'il y ait pas il y ait moins cette tendance aux fringales.
Et tu te réfères aussi à Jessine Chospé, hein, Glucose Goddess, que j'ai reçue dans cette émission à deux reprises, avec sa méthode qui permet en mangeant, alors il y a plusieurs choses dans sa méthode, mais en tout cas de lisser ses pics de glycémie, notamment en intégrant beaucoup de légumes en début de repas.
Oui. Exactement. J'en parle beaucoup, beaucoup dans le livre parce que je trouve que son travail est génial, parce que ça... Il y avait des astuces qu'on avait, nous, en tant que naturaux, mais en fait, on n'avait pas tellement d'études pour appuyer ça. Et en fait, son livre, il est venu juste prouver, grâce à son petit détecteur de glucose, toutes les incidences que des petites choses du quotidien peuvent avoir sur la glycémie et sur tous les symptômes qui découlent d'une glycémie en dents de scie.
Donc ça, c'est vraiment aussi intéressant pour réguler ses appétences de sucre et lisser sa glycémie. Tu parles aussi de faire un travail de dédiabolisation du gras. On a pendant longtemps entendu dire que le gras était mauvais, qu'il faisait grossir, etc. Maintenant, on sait qu'il y a gras et gras. Hein. On fait un peu attention à ça.
Oui, exactement. Et moi, j'ai grandi, par exemple, dans une famille où on mangeait, on ne dînait, enfin, pas moi, mais ma mère, par exemple, il y avait des périodes où elle était au régime et elle dînait du fromage blanc en 0%, c'était tout ce qu'elle mangeait. Mmh. Et c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi. Et donc, bah, oui, même dans les magazines, on voyait à l'époque qu'il fallait éviter le gras parce qu'il fallait surtout pas être grosse, etc. Et au final... on se rend compte, et je le vois aussi chez les femmes qui viennent me voir, qui ont eu ou qui ont encore des troubles du comportement alimentaire, quand je leur parle de bon gras, c'est presque, c'est presque un oxymore. Elles se disent, attends, un bon gras, comment c'est possible? Comment un gras peut être bon? Enfin, c'est quelque chose qu'elles ont du mal à entendre. Et du coup, il y a vraiment un travail à faire là-dessus, parce qu'on a grandi avec des grandes idées comme ça, et il faut un peu faire le ménage dedans, parce que les gras sont essentiels à la bonne santé et à l'équilibre hormonal. On parle souvent des oméga-3. Les oméga-3 sont des acides gras, et donc on en a besoin. C'est aussi des nutriments qui vont venir calmer l'inflammation. Il faut apporter du gras. Il ne faut pas l'apporter par les frites et la charcuterie. Mais ça, on l'entend assez facilement. En revanche, oui, il faut faire le plein de bons gras. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas tellement ces gras-là qui font grossir. Au contraire, même. Ils peuvent même participer à un maintien du poids beaucoup plus optimal.
Quand on a des problèmes hormonaux, qu'est-ce que tu penses? Que penses-tu des cures de détox, du jeûne intermittent, du jeûne en général? Est-ce qu'on peut trouver aussi des voies, en tout cas ponctuellement, en étant accompagné? On sait que tout ça, il ne faut pas le faire comme ça, au hasard, n'importe comment, comme tu disais, en suivant des conseils sur Internet. Mais est-ce qu'on voit des effets intéressants?
Alors, j'ai parlé du jeûne intermittent, déjà. Le jeûne intermittent peut être intéressant et on voit pas mal d'études dessus sur sur son impact sur les personnes qui font de la résistance à l'insuline, notamment chez les femmes en préménopause ou ménopausées, puisque c'est une période où on va être un petit peu plus sujette à ça. Ça se caractérise souvent par des femmes qui me disent bah, « Tiens, moi j'ai toujours été une allumette, toujours été très mince, et puis là tout d'un coup j'ai un peu de graisse autour du ventre, alors que pourtant je ne mange pas beaucoup, j'arrive pas à m'en débarrasser, etc. » Donc ça, c'est des petites choses qui peuvent, bien sûr, ça n'a pas valeur de diagnostic, mais c'est des petites choses qui peuvent voilà, nous mettre un peu la puce à l'oreille. Et donc, du coup, le jeûne intermittent, il y a façon et façon de le faire. On a vu que le jeûne intermittent, c'était de manger sur une fenêtre restreinte. Et en fait, ça a été un peu comme un téléphone arabe, ça a été mal compris et on a mal communiqué dessus. Et les gens ont juste fini par sauter un repas. Bah, j'ai vu que le jeûne intermittent, c'était bien. Alors du coup, bah, maintenant, je petit déjeune plus et, ou je dîne plus. Et du coup, je fais comme ça maintenant. Et donc, on a juste un apport nutritionnel en moins chez des femmes qui, en plus, parfois, ont des activités sportives hyper intenses. Donc là, on est clairement sur quelque chose qui va mettre le système hormonal en état d'alarme. Parce que bah, clairement, il y a un manque quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, bah, c'est sûr que ça ne va pas être génial au niveau de l'ovulation. En vrai, le jeûne intermittent, qu'est-ce que ça devrait être? Ça devrait être quelque chose où, en effet, on mange sur une fenêtre restreinte, mais on garde nos trois repas, ou nos quatre repas si on goûte. Donc, on a des apports nutritionnels qui restent les mêmes, mais seulement, on a une plus grande fenêtre où on va s'accorder une pause digestive pendant plus longtemps, en fait. Donc, c'est plus ça. Pour moi, c'est plus ça le manque de compréhension autour de ça. Et puis, on parlait aussi du jeûne. Tout dépend. Bon, l'objectif, moi j'ai beaucoup de mal à le conseiller, mais j'ai lu des livres où on vantait les bienfaits du jeûne. Donc, pourquoi pas dans certains cas. Moi, dans ma pratique, j'ai du mal à le conseiller. Déjà parce que moi, j'ai essayé de jeûner et que ça s'est très, très mal passé. Mais aussi parce que... Bah, Ce vers quoi je tends, c'est beaucoup plus d'apaisement au niveau du corps. Indiquer au corps et au cerveau que tous les signaux sont au vert pour qu'ils puissent lancer une ovulation, puisque c'est souvent des troubles du cycle que je traite. C'est quelque chose que j'ai pas tendance à conseiller. Et il y avait autre chose, tu me parlais de détox, c'est ça?
Oui, c'est ça, les cures de détox, oui.
Et les cures de détox, oui et non, pourquoi pas, mais ça dépend, il faut bien les faire. Moi, je pense qu'on peut travailler sur son foie de manière intelligente. Bien sûr, pourquoi pas s'accorder des pauses, notamment après les fêtes. Je pense qu'il va y avoir pas mal de gens qui vont un peu mettre la pédale douce sur les sucreries, l'alcool, etc. après les fêtes. Donc pourquoi pas, c'est possible, mais pas à faire n'importe comment. Et puis surtout, ça dépend de ce qui se passe. Si j'ai des difficultés à ovuler et que pendant une semaine, je me dis bah je vais acheter cette cure détox et je vais boire des jus tous les jours, non, c'est clair que ce sera pas du tout la bonne idée et que le corps va pas apprécier. Donc, encore une fois, c'est un peu toujours une histoire de contexte et c'est toujours une histoire de façon de faire. Donc, pourquoi pas la détox, mais dans ce cas-là, de manière intelligente, où on va faire travailler le foie de manière douce. Pourquoi pas le soutenir un petit peu avec des compléments alimentaires, des choses comme ça, et puis les aliments que je décrivais tout à l'heure, par exemple. Mais on ne va jamais être dans l'excès et trop forcer le corps.
Ok. Tu parles aussi, tu as ce mot de seed cycling. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est efficace?
Alors, le seed cycling, donc, c'est le fait de, d'alterner les graines en fonction de la phase du cycle dans laquelle on se trouve. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines graines qui vont être riches en certains nutriments et d'autres plus intéressants, dont les nutriments sont plus intéressants pour... soutenir, par exemple, la production de progestérone ou la santé du corps jaune. Donc, comme beaucoup de tendances, ça part d'une vérité, c'est-à-dire que les graines, en effet, sont des vraies bombes de nutriments et donc c'est important d'en avoir. On parlait de l'importance des acides gras. Bah, là, typiquement, avec les graines, on est vraiment là-dedans.
Alors, tiens, citons quelques graines, là, pendant que tu y es.
Les graines de lin, les graines de sésame, par exemple, les choses comme ça. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de... Enfin, cette théorie, vraiment, c'est de manger certaines graines en début de cycle et d'autres en fin de cycle. C'est un peu vendu comme une solution miracle. Et en effet, bah, les nutriments que vous avez trouvés dans ces règles, dans ces graines sont très bonnes pour l'équilibre hormonal. Mais peu importe que vous les preniez en début de cycle ou en fin de cycle. Ça n'a pas changé grand-chose. Et vous n'allez surtout pas pouvoir mimer un cycle comme ça, en essayant de donner telle graine à tel moment du cycle et telle autre graine à l'autre moment. Ce n'est pas comme ça qu'on répare un déséquilibre hormonal. Ça serait très chouette, mais ce n'est vraiment pas le cas. Et j'ai horreur de lire que c'est la solution miracle pour les problèmes hormonaux, parce que ce n'est pas vrai. Donc, bien sûr, vous pouvez manger autant de graines que vous voulez, si vous les tolérez bien, il n'y a pas de souci, mais vous ne prenez pas trop la tête sur quand est-ce que je l'ai mangé, est-ce que c'était la veille de mon ovulation et qu'est-ce que je fais. Alors, je crois que j'ai ovulé aujourd'hui, quelle graine je prends? Non, ce n'est pas la peine de vous soumettre à cette torture mentale. Vous mangez des graines, vous mangez plus de graines, c'est la seule chose qu'il y a à retenir à propos du seed cycling.
Ok. On approche de la fin de cette émission. Alix, j'aimerais bien quand même qu'on parle, puisque c'est ta spécialité évidemment aussi d'infertilité, puisque tu en as fait une forme d'expertise. D'abord, tu l'as vécu toi-même et puis ensuite, tu accompagnes de nombreuses femmes. Et puis qu'on parle aussi, avant ça, du stress, des émotions négatives, puisqu'on n'a pas parlé de la psyché aujourd'hui et comment ça peut influer finalement nos hormones.
Oui. Alors, on parle de fertilité et d'infertilité. C'est un phénomène qui est loin d'être anecdotique. Moi, je pense que dans mon cabinet, sans exagérer, 8 à 9 consultations sur 10, c'est pour de l'infertilité. Pour des projets bébés qui mettent du temps. Donc, parfois, c'est...
Alors, tu es connue aussi pour ça. Ouais. Donc, forcément, tu as un biais que les gens qui ont des problèmes arrivent à un moment donné peut-être chez
Bien
toi.
Bien sûr, oui. Mais
tu parles quand même d'épidémie, hein, de problèmes de ce type.
Je trouve, oui. Chez les hommes et chez les femmes.
Oui.
Et c'est vrai que bah, notre chance en tant que femme, c'est que... on est plus habitué à s'occuper de nous et voilà. Et c'est moins le cas chez les hommes qui ont du mal... plus de mal, je pense, à confier leurs soucis. Tu vois, je pense que c'est peut-être aussi quelque chose d'un peu culturel. Autant les femmes, vont être les premières, même si le souci hormonal, le souci d'infertilité les touche pas, ça va être les premières à être proactives et à se dire bon bah qu'est-ce que je peux faire, comment je peux aider les choses, etc. C'est moins le cas chez les hommes et je l'explique pas forcément en je ne pense pas que c'est parce qu'ils s'en foutent. Je pense que c'est parce que c'est plus difficile pour eux de se confier sur leurs faiblesses. En fait, c'est beaucoup moins toléré par la société d'être un homme faible que d'être une femme qui a un problème. Donc, bien sûr, je ne dis pas que les hommes qui ont des soucis d'infertilité sont faibles. Mais en tout cas, je pense que c'est cette peur. Ça parle de cette peur, en tout cas. Donc, par chance, il y a certains hommes qui me font suffisamment confiance pour venir et qui s'impliquent dans le projet bébé dès cette étape, alors même si le bébé n'est pas encore là. Et ça, c'est génial.
Oui.
Mais tu vois, tu parlais de la psyché. Je pense en effet que c'est quelque chose qui peut avoir un lien. En tout cas, le fait qu'on voit beaucoup moins d'hommes, je pense que c'est quelque chose qui peut avoir un lien aussi avec le fait qu'ils ne savent pas trop quoi faire de leurs émotions, ils ne savent pas trop quelle place avoir dans ce projet bébé et dans ce souci d'infertilité. Et du coup, je pense qu'il y a un truc à faire là-dessus. Et donc, pour parler des émotions et du vécu de tout ça, évidemment, ça a un impact donc, sur les personnes qui sont en chemin vers la fertilité, mais aussi sur les personnes qui ont simplement, entre guillemets, un déséquilibre hormonal. Et ça peut avoir un impact sur, à plusieurs niveaux. On sait que le stress fait rarement du bien au système hormonal, parce que tout simplement, système nerveux et système hormonal se répondent. Hein, c'est un peu des frères siamois. Et du coup, s'il y en a un qui est dans les choux, c'est sûr que ça va impacter au niveau hormonal. Aussi parce que le stress, les émotions, tu vois, la langue française est pleine d'expressions qui parlent de l'impact de nos émotions ou de notre vécu sur notre ventre. J'ai l'estomac noué, je l'ai encore sur l'estomac, ou etc. Enfin, plein de choses comme ça. Et c'est pour moi un témoin important du lien entre ce qui se passe autour de nous, notre vécu, la manière dont on vit les choses, et le système digestif qui, lui, est assez... qui est quelque chose d'assez physique. Donc, des émotions, du stress, des choses comme ça, un peu intangible, au final, oui, ça peut nous impacter. Parce que si après notre système digestif, par exemple, va mal, on a vu que ça pouvait provoquer plein de soucis. Il y a aussi l'hormone du stress, le cortisol, qui peut venir un peu mettre le feu aux poudres à différentes manières, sur la manière dont on va gérer la glycémie, sur la manière dont on va ovuler, etc. Et donc, forcément, s'il n'y a pas d'ovulation, pas de progestérone, et donc on sera plus sujette aux déséquilibres hormonaux. Donc en vrai, le stress, on pourrait continuer encore longtemps, il y a plein de scénarios, et les émotions négatives aussi, il y a plein de scénarios qui peuvent nous impacter au niveau hormonal. Et c'est quelque chose qui est, je suis contente que tu en parles d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui est très souvent remis au second plan. Et parce que on veut s'occuper, et c'est assez... compréhensible, on veut s'occuper de soi, alors on se dit qu'est-ce que je mets dans mon assiette, etc. Donc on voit, c'est quelque chose d'assez visible, et puis il y a tout le reste, il y a l'émotionnel, il y a les traumas qu'on a vécu, il y a plein de choses qui rentrent en compte, et c'est ce qui m'a amenée à la pratique du massage abdominal qui était pour moi une manière d'entraîner des femmes très cartésiennes, très focus dans l'action vers un massage. En leur disant, c'est un massage qui va booster la circulation dans la zone du bassin, ce qui est vrai. Donc, je les emmène par un argument très factuel. Et ça leur permet aussi de se mettre enfin en pause, de décrocher, de se lâcher un peu. Et parfois, il y a des très bonnes, il y a des très belles choses qui se passent, des très belles, très beaux moments où les émotions sont enfin lâchées. Et cette femme qui était tout le temps à 100 à l'heure, etc., ça y est, il y a quelque chose qui s'est passé sur cette table de massage, justement parce qu'on a massé cette zone un peu clé, mais dont on s'occupe jamais au final. Cette zone qui est importante pour la digestion, pour le recyclage des hormones, et dans laquelle on a enfoui des tonnes d'émotions. Et c'est une zone par laquelle on respire plus, parce qu'on a une respiration assez courte, assez thoracique. Et puis c'est une zone qu'on touche quasiment pas. Qu'on n'aime pas. Pour moi, c'était un moyen de rappeler l'importance ou d'amener les femmes vers une petite libération émotionnelle ou au moins un temps de relaxation qui est souvent précieux et qui est difficile à s'octroyer.
Oui, d'ailleurs, tu le dis en conclusion de ton ouvrage, tu incites tes lectrices à se faire passer un peu plus en priorité et se rendre compte que finalement, c'est pas normal de souffrir et que cette démarche de chercher les causes, de prendre soin de soi, c'est vrai, c'est finalement plus important. Avant de conclure, qu'est-ce qui a marché pour toi de fondamental dans ce parcours autour de l'infertilité puis de la fertilité, d'essentiel, je dirais ?
Écoute, je pense que c'est un travail sur plusieurs plans. D'ailleurs, en naturopathie, et dans plein d'autres disciplines d'ailleurs, mais on considère que l'être humain, c'est pas juste un corps physique, pas juste un tube digestif ou pas juste des récepteurs hormonaux, mais que c'est aussi, c'est certes un corps, évidemment, mais c'est aussi plein d'autres choses. C'est aussi un mental, des émotions qui sont plus ou moins écoutées. Et moi, pendant cette période d'infertilité, c'est vrai que j'ai essayé plein de choses et j'ai vraiment consacré ma vie et mes économies à aller mieux sur différents plans. Donc j'ai vraiment investi sur moi en fait. J'ai fait une thérapie, j'ai pris soin de ce que je mangeais, je me suis nourrie de manière alimentaire, de manière intellectuelle, et puis j'ai fait un peu le tri dans mes émotions, dans ce que je devais gérer, et je pense que ça a vraiment changé ma vie.
Très bien, en tout cas, merci infiniment Alix Dantras d'être venue nous partager tout ton savoir, tes connaissances, ton parcours personnel et aussi à travers évidemment toutes les personnes que tu accompagnes. Je rappelle que ton livre que j'ai eu la joie d'accompagner aux éditions Erol, Reine de mes hormones, qui est très précis, on l'entend, tu es très précise aussi à l'oral, est sortie il y a très peu de temps. Et pour en savoir plus sur l'accompagnement que tu proposes, on peut te retrouver soit sur ton site internet alixdantras.com et sur ton Insta qui est très amusant, NaturoHigh. Je dis très amusant parce que tu aimes faire des vidéos, c'est très joyeux aussi hein, chez toi.
Ouais.
NaturoHigh, voilà, sur les réseaux. Merci beaucoup, Alix.
Eh ben, merci, Anne, j'étais ravie d'être là.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Deezer et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com.
Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Bonjour, c'est Anne Guéquière. Alors, je suis ravie aujourd'hui de vous annoncer une grande nouveauté si vous envisagez de rejoindre la tribu Métamorphose. Vous le savez peut-être, la tribu, c'est un moyen de nous soutenir financièrement, moyennant un petit abonnement mensuel. Votre soutien financier est très important, car il assure l'indépendance et la pérennité de notre podcast. Et maintenant, en signe de notre profonde appréciation, l'adhésion à la tribu vous donne aussi un accès à nos programmes de coaching exclusifs, Objectif Métamorphose, un bouquet d'une douzaine de programmes de coaching 100% audio que nous avons conçu avec des experts de renom pour guider votre évolution personnelle sur une gamme étendue de sujets comme l'hypersensibilité, le bien-être dans votre couple, la gestion de vos émotions ou bien l'enfant intérieur, le transgénérationnel, etc. En devenant membre de la tribu, vous ne soutenez pas seulement Métamorphose, vous investissez donc aussi dans votre propre parcours de transformation. Pour rejoindre la tribu, rendez-vous dès maintenant sur notre site Métamorphose Podcast, rubrique La Tribu. Un immense merci les amis pour votre fidélité et votre soutien.